Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, émission mensuelle destinée à la lecture, à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de l'acheter et de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous, le plus simplement du monde, par la lecture d'extraits choisis par Hervé Pérol parfois, Catherine Bonny d'autres fois. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, c'est Hervé qui va lire, si j'ai bien tout compris et si on a bien préparé le travail.
A priori, si Catherine me laisse la place, oui.
Bien.
Je crois que je ne peux pas faire autrement, j'ai très mal à la gorge.
Eh bien, ça tombe bien.
Catherine.
Hervé, tu nous avais annoncé le titre du roman que tu avais choisi de lire aujourd'hui.
Oui, et je n'ai pas changé d'avis.
C'est merveilleux.
Ça sera toujours Khalid de Yasmina Kadra.
Eh bien, je te laisse la parole. Un petit mot sur Yasmina Kadra, peut-être ?
Oui. Je vais commencer par donner un petit mot. Effectivement, il faut que je fasse un avant-propos sur ce livre. En effet, donc, le roman Khalid, paru l'année dernière, en 2018, chez Julliard, raconte les événements du vendredi 13 novembre 2015 à Paris. C'est-à-dire les attentats revendiqués par l'État islamique au Stade de France, où se jouait un match amical, s'il peut y avoir des matchs amicaux, entre la France et l'Allemagne, puis dans la salle de spectacle du Bataclan, avec au passage d'ailleurs, mais on a tendance des fois à l'oublier, des fusillades dans la rue, devant le restaurant du Petit Cambodge et le café Le Carillon.
Tendance à l'oublier, non, je ne pense pas
qu'on oublie. J'ai dit une bêtise. Or, il n'est évidemment pas dans mon idée, ni celle de Yasmina Kadra, de faire une sorte d'argumentaire pour justifier des attentats. Ce n'est pas du tout le but de ce livre. Oh que non, c'est même un roman complètement humaniste. C'est pourquoi, avant de commencer ma lecture, il me faut préciser tout d'abord qui est Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, donc, c'est un pseudonyme correspondant aux deux prénoms de son épouse. Ensuite, étant algérien, son premier métier, avant de devenir écrivain, fut d'être militaire au sein de l'armée algérienne, donc, et même l'un des principaux responsables de la lutte contre l'AIS. Il avait le grade de commandant. Autrement dit, quand il évoque les terroristes, il sait de quoi il parle. Ensuite, pour expliquer l'origine du roman, je préfère lui donner la parole en lisant une interview de lui réalisée dans une librairie au début d'août 2018. Interview, je signale, visible sur YouTube. Et donc, c'est Yasmina Kadra qui parle. Je voulais revenir sur les attentats du vendredi 13 novembre 2015 pour revenir sur notre part d'humanité souvent mise à mal sur les réseaux sociaux outranciers. J'espère avoir la légitimité pour pouvoir m'adresser à un large public dans le but tout simplement d'apaiser les esprits. Ce livre, c'est d'abord une plongée dans les vertiges d'un jeune homme qui, ayant renoncé à ses rêves, décide de s'attaquer aux rêves des autres. J'essaie de le convoquer à travers ses fantasmes, ses incertitudes qu'il prend pour des vérités absolues, son égarement terrible. De cette manière, je propose à un jeune lectorat d'avoir une longueur d'avance sur les discours insidieux des intégristes. Je suis persuadé que quelqu'un qui va lire ce livre ne pourra jamais se laisser emporter par ces discours terroristes et repoussants. Un terroriste, c'est d'abord quelqu'un qui est à la recherche d'une famille, parce que la sienne n'arrive pas à combler tous les vides qui gravitent autour de sa personne. Peut-être de la tendresse, peut-être un vide de compréhension ou d'encouragement dans la vie, et il est livré à la rue parce qu'il est mal géré, mal guidé par sa famille. Dans la rue, soit il est livré à la voyocratie, soit il va vers autre chose, et il croit alors avoir trouvé sa voie, les prêches des imams radicaux. Il se sent alors en harmonie avec cette idée d'appartenir à une force, à une visibilité terrifiante. Ça lui donne l'illusion de se découvrir une certaine stature dans la société. Et là, il oublie qu'il est tout simplement en train de renoncer à lui-même. Un peu plus loin dans l'interview. Or, ces gens-là n'ont plus de rêve. On leur a dit « le cinéma, c'est mauvais ». Le théâtre, c'est mauvais, la musique, c'est mauvais, la danse, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il reste à ces gens-là, à part la folie ? Il ne reste rien à part la folie. Et quand ces gens-là acceptent d'adhérer à cette philosophie mortifère, ils voient de l'autre côté des gens qui s'amusent, des gens qui rêvent, des gens qui vont au cinéma. Donc il y a une sorte de refus de voir le bonheur des autres, et c'est dans ces refus que se construit la violence terroriste.
Ah!
Venons-en maintenant à la lecture proprement dite du roman. Comme d'habitude, parce qu'il faut raccourcir une lecture d'un roman. En effet, quand on lit un roman, ça doit bien durer une quinzaine d'heures, n'est-ce pas, Catherine ? Mm-hmm. C'est ce que je compte souvent. Et puis là, il faut le réduire au temps d'une émission, donc 45 minutes. Donc il faut passer d'une quinzaine d'heures à 45 minutes. J'ai donc découpé le roman en plusieurs parties. Je me suis même permis de nommer les chapitres ainsi créés. Donc je vais commencer par un avant-propos. Comment as-tu laissé ces charlatans t'embobiner ? Ce sont des choses qui arrivent. Ils ne pouvaient pas comprendre Ryan. Sa mère les compensait toutes. Elle avait veillé sur chacun de ses pas, couvé chacun de ses rêves, constamment à ses côtés, mais le regard au loin. Elle le voyait tandis qu'il tenait à peine sur ses jambes, bardé de diplômes, gravir les échelons, disposer d'un chauffeur et d'une secrétaire. Elle n'avait pas lésiné sur les moyens pour faire de lui un ingénieur, un crack, et ne désespérait pas de le voir un jour son propre patron, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je tirais le diable par la queue en riant aux éclats pour faire diversion. Je n'en voulais à personne. L'existence est ainsi faite. Il y a des gens aisés et des gens lésés, des gens à qui tout réussit et des canards boiteux. Bien sûr, au début, je cherchais à comprendre pourquoi la chance ne me souriait pas. Je me posais un tas d'autres questions, sauf que les réponses bottaient en touche. À la longue, je ne me prenais plus la tête. Je me fichais de savoir ce qui relevait du destin et ce qui résultait d'un accident de parcours. Que le ciel soit rouge ou bleu, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui avance à tâtons ? Je vivais ma vie au jour le jour en espérant des lendemains meilleurs, comme tout le monde. Mais rien ne venait. À l'usure, j'avais cessé d'attendre le miracle. Je n'y croyais plus et j'avais décidé de m'accommoder des miettes que la fatalité me concédait. Et puis, vlan, ces choses-là arrivent. Tu ne sais pas comment elles te tombent dessus ni quand ça a commencé. Une altercation qui dégénère, une réflexion raciste, un sentiment d'impuissance devant une injustice. Personne ne sait exactement à partir de quel moment et sous quelle forme le rejet de toute une société germe en toi. Tu prends ton mal en patience et tu attends, la susceptibilité à fleur de peau. Tu crois conjurer tes vieux démons dans les bagarres, mais ces choses-là demeurent, deviennent des organes parmi les organes de ton corps, des toxines noyautant tes neurones. Puis des phrases, somme toute anodines, se mettent à se greffer dans ton subconscient. Tu es en train de regarder un film de guerre en grignotant du pop-corn avec tes copains au fond d'une salle de projection quand tu entends « Pour qui meurent ces pauvres bougres de Troufion ? Pour des multinationales ? Qu'auront-elles à leur offrir ?» Une minute de silence, une médaille, une stèle que les pigeons couvriront de leur fiente. Tu ne fais pas attention à ces propos et tu replonges la main dans ton pop-corn en haussant les épaules. Mais les propos s'incrustent par une porte dérobée de ton cerveau. Tu es loin de te douter que tu viens d'héberger en toi des terribles agents dormants, comme beaucoup d'autres ont intercepté ça et là, jusqu'au jour où, en suivant un reportage sur le djihad, tu entends « Les mercenaires meurent pour leurs commanditaires, les soldats pour des intérêts qui ne leur apportent rien, les gangsters pour des prunes ». Mais le tchahid, lui, il ne meurt jamais. Il se prélasse dans les jardins du Seigneur, entouré de houris et d'arc-en-ciel éblouissants. Au début, ça te passe au-dessus de la tête. Tu estimes que tu as d'autres chats à fouetter plutôt que prêter l'oreille à ces affabulations. Puis, un soir, un voisin, un copain ou quelqu'un que tu connais à peine se met à te vanter les prêches de l'imam du coin. Tu l'écoutes pour ne pas le froisser, car tu n'en as rien à cirer de sa bonne parole. Mais le frère revient à la charge chaque fois qu'il te croise sur son chemin. Souvent, c'est lui qui t'accueille à la descente du tram. Il finit par te convaincre de le suivre dans l'impasse où officie l'imam. En vérité, il ne t'a pas convaincu. Tu le suis pour qu'il s'arrête de te harceler. C'était ce qu'il m'était arrivé. L'IS me harcelait. Il faut que tu écoutes ça, Khalid. Dis-lui, Driss, dis-lui ce qu'il rate. Et Driss, l'IS a raison. Il faut absolument que tu assistes aux rencontres avec notre imam. Ça a changé ma vie. Allez, viens, Khalil. Ça ne t'engage à rien. Ça ne sera pas long. Qu'est-ce que tu as à perdre? Ton boulot? T'en as pas. Ton temps? Il ne compte pas pour toi. S'il te plaît, fais-moi plaisir. La curiosité est la mère nourricière des tentations et les tentations sont traîtresses. Après tout, que risque-t-on à écouter un imam? C'est mieux que de s'écouter parler. Et te voilà, n'écoutant que d'une oreille, en train de t'ennuyer ferme au milieu des ouailles. Ton voisin te donne un coup de coude dans le flanc pour t'enjoindre à plus de correction, puis à plus d'attention. Petit à petit, les agents dormants que tu avais cumulés à ton insu commencent à se substituer à tes fibres sensibles. Quant à l'imam, il a la réponse à toutes les questions qui te taraudent, autrefois sans te livrer un indice susceptible de t'éclairer. Il te renvoie à tes déconvenues, aux vexations que tu croyais avoir surmontées, à tes blessures jamais cicatrisées. Le paumé devient ton sosie, le révolté ton frère siamois. Les prêches, ton exutoire, la violence, ta légitimité. Au diable les racistes, à mort les islamophobes. Tu ne tendras plus l'autre joue. Le temps de te rendre compte de ce qu'il t'arrive, et déjà tu es quelqu'un d'autre. Un être flambant, neuf, une personne que tu ne soupçonnais même pas. Tu es respecté. Écouté à ton tour, aimé, tu te découvres une vraie famille, des projets et un idéal. Tu deviens le frère et tu marches la tête haute parmi les hommes comme un seigneur. Enterré, le citoyen résiduel qui rasait les murs, tu es le nombril du monde et tu regrettes d'avoir mis si longtemps à rejoindre l'association. Et un jour béni, alors que tu jouis de toutes les considérations, tu as accès aux privilèges des privilèges. Le tchèque révéré t'invite chez lui, sous son toit. Il te prend à part, te fait asseoir sur un banc confectionné par un artisan du bled, coussins brodés et tapis fleurant l'encens. Il t'offre du thé et des biscuits tout droit sortis de doigts de fée ornés de henné. Et quand tu as siroté ton breuvage jusqu'à plus soif, le cheikh te regarde dans les yeux, pose ses mains augustes sur tes épaules et d'une voix pénétrante comme un baume sur ton cœur, il te demande « Qu'est-ce que la vérité pour toi, frère Khalid ?» Tu lui réponds aussitôt, s'agissant de la plus nette des évidences « C'est Dieu Tout-Puissant, mon cher imam !» À ta grande surprise, le cheikh fait non de la tête et te confie sous serment « Non, frère Khalid, la vérité sur cette terre, c'est toi, car il te sera demandé au jour dernier « Quelle grâce as-tu rendue à celui qui a fait de toi un être d'amour et de lumière ?» Et alors, tout le sens que tu croyais avoir des êtres et des choses, ainsi que de leur complexité, toutes les valeurs fallacieuses que l'on t'a enseignées à l'école, les notions de bien et de mal, celles de tort et de contrition, la fonction de l'honneur, de la vertu, du devoir, de la loyauté et de la pureté, enfin, tout ce que tu croyais avoir compris, appris ou vécu, s'écroule autour de toi comme des tentures de poussière et tu te retrouves face à la seule vérité qui compte, toi, c'est-à-dire ou bien un soldat de Dieu ou bien un suppôt de Satan. Arrivé à ce stade de lévitation, il n'y a plus de marche arrière. On retirerait un seul écrou que toute la charpente s'effondrerait. Et qui voudrait voir l'échafaudage de son mausolée se disloquer ?
Sur le boulevard où s'étaient allongées les stars, chaque vertèbre sur le béton, on connaîtrait enfin son nom. Presque célèbre dans les faubourgs, les gens croient encore en l'amour et au sourire de tapis rouge, aux soirées où personne ne bouge, sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre, Hollywood boulevard, sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre. Sous les flèches, frigorifié un soir de mars, encore assez un peu de cash, elle pourra se faire une place. Elle est venue là pour rêver, mais quand elle monte les escaliers, devant les écrans de papier, elle voudrait une vie à aimer. Sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre. Sa mère voudrait un vrai métier, pourtant elle est au bon endroit. Les anges se donnent rendez-vous là, sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre, Hollywood boulevard, sur Hollywood espoir.
Chapitre 1, l'attentat. Driss et moi avions été préparés pour la mission au cours des 5 dernières semaines. Chaque soir, après la prière, le cheikh, notre coordonnateur, venait nous rejoindre chez Lies pour s'assurer que nous étions réellement partants. Avant de nous quitter, il nous attrapait par les épaules, sondait le fond de notre pensée et nous rappelait que Dieu n'exige pas ses sujets que ce qu'ils sont en mesure d'entreprendre. Votre mission est capitale. Si vous ne vous sentez pas prêt, il n'y a aucune honte à vous rétracter. Personne ne vous en tiendra rigueur. Le martyre est une conviction, non une contrainte. D'autres frères seraient ravis de prendre votre place. Driss le rassurait d'une voix limpide. « Nous ne laisserons personne faire à notre place ce que Dieu attend de nous, cheikh. » L'imam acquiesçait sans me quitter des yeux. Driss se portait garant de moi. Khalid est timide, mais lorsqu'il s'engage, un bulldozer ne le stopperait pas. Nous avons grandi ensemble, nous mourrons ensemble. Et ensemble, vous serez dans la baraka du Seigneur, avait conclu l'imam en nous pressant contre lui. Le lendemain, le cheikh était de nouveau là à nous soumettre à la même épreuve. C'était une obsession chez lui. Il voulait vérifier si nous étions des bombes solvables. si Liès, qui prétendait connaître ses gars sur le bout des doigts, ne se trompait pas sur l'arsenal de guerre à un moment où la situation réclamait d'authentiques armes de destruction massive. Il revint le soir d'après et tous les soirs qui suivirent pour ne rien laisser au hasard. Cet après-midi, il était encore là, drapé dans sa robe d'imam révéré, Liès sur sa droite et l'autre imam, le vénérable Sadek, sur sa gauche. « Dans quelques heures, avait-il décrété, le monde entier sera scotché aux écrans de télé. Les chefs d'État se relayeront dans les tribunes pour s'indigner. Mais c'est vous qu'on entendra d'un bout à l'autre de la terre. Notre message ne souffrira d'aucune ambiguïté. Nous allons prouver à ces mécréants, une fois de plus, que nous sommes capables de frapper n'importe qui, n'importe où. » À l'heure et à l'endroit indiqué, une voiture était passée nous prendre, Driss et moi. À son bord, il y avait deux passagers. Leur présence nous avait intrigués. Liès ne nous avait pas mis dans la confidence à leur sujet. Il avait seulement laissé entendre qu'il y aurait des explosions à l'intérieur du Stade de France, que Driss avait pour mission de cibler les supporters à la sortie du stade et moi d'intervenir dans le RER après le match. Les explosions programmées à l'intérieur du stade seraient donc nos deux inconnus. J'ignorais que nous allions voyager ensemble. Driss était monté le premier dans la voiture, s'était poussé sur la banquette arrière pour me faire de la place. « Pas besoin de présentation pour le moment », avait dit Ali, le chauffeur. « Vous les ferez plus tard, dans les jardins éternels. » D'emblée, les deux inconnus m'avaient déplu. Ils n'avaient même pas daigné lever les yeux sur nous. Ils étaient repoussants d'arrogance et de froideur. Du coin de l'œil, Driss m'avait intimé de prendre sur moi. Les deux frères devaient être trop concentrés sur leur mission pour se donner la peine d'être aimables. J'étais resté une heure à faire le tour des pâtés de maison, en me gardant de trop m'éloigner de la station. Je prenais des repères à chaque coin de rue, revenais sur mon parcours pour vérifier que je n'étais pas en train de m'égarer. Les bistrots étaient bondés. Le match venait de commencer. Les supporters se trémoussaient sur leurs sièges lorsqu'ils n'étaient pas carrément debout, le nez collé à l'écran, la chope de bière au bout du bras, tel un trophée. Leur chahut se répandait aux alentours comme un vent de folie. Une déflagration résonna au loin, à peine audible. Je me précipitai vers le bistrot le plus proche pour voir si l'opération avait débuté. La clientèle s'agitait dans un brouhaha bon enfant. Au comptoir, le barman et ses serveurs commentaient le match, les yeux rivés sur l'écran au-dessus de leur tête. Dans le stade, les gradins grouillaient de supporters enthousiastes. Les chants ripostaient aux sifflets. J'en déduisis que la déflagration en question n'était que celle d'une bonbonne de gaz, ou bien le fruit de mon imagination. Quelques minutes plus tard, une deuxième explosion se fit entendre, mais impossible de savoir d'où elle provenait. En fraction derrière la vitrine du bistrot, je surveillais la télé. Rien d'anormal ne perturbait la liesse au Stade de France. Le match se poursuivait dans une ambiance festive, soulevant les clameurs tonitruantes chaque fois qu'une contre-attaque des Bleus menaçait les buts adverses. D'un coup, des sirènes se mirent à ululer de partout, emplissant la ville de Saint-Denis d'une chorale apocalyptique. Au bistrot, personne ne s'en rendait compte. On continuait de suivre le match et de trinquer, les cris aussi déchirants que les sirènes en train de cadencer le pouls de la nuit. J'étais désarçonné, je ne comprenais pas. Les tribunes du Stade de France exultaient, les banderoles brassaient l'air, les chants et les clairons se surpassaient. À cette heure-ci, les deux kamikazes devaient avoir actionné leur ceinture d'explosifs. Or, aucune panique ne s'était déclarée dans les gradins. Je m'attendais à voir deux geysers de flammes pulvérisés par grappes des dizaines de supporters et provoquer une bousculade indescriptible autour des portes de sortie. Rien. Les caméras balayaient tranquillement la pelouse, zoomaient sur un tacle, revenaient sur un dribble, s'attardaient sur un joueur au sol et les galeries continuaient de s'époumoner dans une ferveur grandissante. Je n'avais aucun moyen de joindre Driss pour savoir ce qui se passait. Je surveillais le stade à la télé. Le match se poursuivit jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Puis les supporters se mirent à investir la pelouse. Quelque chose était arrivé. Les chants cédèrent la place à un silence angoissant. Sur les visages bariolés, une hébétude rompait brutalement avec la clameur qui ébranlait les tribunes quelques instants plus tôt. Je vis des enfants apeurés, des filles abasourdies, des hommes désarçonnés. Dans le bistrot, les clients se mirent à se regarder d'une drôle de façon. J'entendis deux hommes parler d'attentat. Je me dépêchai vers la station. Les rames du RER étaient pleines à craquer. La plupart des passagers revenaient du Stade de France, la figure abîmée par l'effroi, les yeux aux abois. Curieusement, ils se taisaient. Ils semblaient n'avoir qu'une envie, rentrer le plus vite possible chez eux. Quelque part dans la cohue, un enfant pleurait. Autour de moi, plusieurs personnes étaient absorbées par leur iPhone. Par-dessus une épaule, je vis des scènes de panique sur un écran. Une chaîne d'info diffusait les images d'un attentat à Paris. Les prises de vue étaient instables et floues. Difficile de savoir de quoi il retournait. Le gars au smartphone utilisait les écouteurs. À côté de moi, une jeune fille envoyait des textos, fébrile, blême, sur le point de tomber dans les pommes. Un remous se déclara au fond de la rame. Une bousculade s'ensuivit, puis une altercation. Je craignis que quelqu'un tire sur la poignée d'alarme et que tout le monde évacue le RER dès l'arrêt d'urgence. Dans ma tête, la voix orageuse de l'exégète gronda. « Qu'a fait notre seigneur de l'armée aux éléphants qui s'apprêtaient à dévaster la Mecque ? Il a lancé contre elle les oiseaux d'Ababil. Ils l'ont lapidé avec des pierres cueillies de l'enfer et a réduit ses rangs en pâturages impurs. » Aujourd'hui, l'armée des éléphants, ce sont ces surpuissances autoproclamées qui osent s'en prendre à l'islam et que nous allons anéantir par la volonté de Dieu. Car aujourd'hui, les oiseaux d'Ababil, c'est nous. Nous volons plus haut que leurs drones, frappons plus loin que leurs fusées, surveillons plus efficacement que leurs satellites. À mes tempes résonnèrent des milliers de takbir. C'était comme si un volcan éruptait en moi. Je glissais ma main dans la poche de mon veston. Je pensais à Driss, à ma sœur jumelle et à ma mère, récidait la shahada en mon fort intérieur et pressait sur le poussoir relié à ma ceinture d'explosifs. Rien.
get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Chapitre 2. Mentir. Il y avait du monde dans le garage de Buffa. Je reconnus Jérôme, un intermittent des mandats de dépôt. Il résidait à Molenbeek, où il passait pour la réincarnation d'Arsène Lupin, spécialisé dans le cambriolage des quartiers huppés. Il devait avoir 30 ans et en paraissait le double. Près de lui se tenait Éric, le frère aîné de Buffa, qui tenait un garage de mécanique automobile, rue Korenbeek. Il était marié et avait 3 gosses. Assis sur le siège d'une moto démontée, Fred le gaucher dégustait un casse-croûte aux œufs durs. Fred était mécanicien lui aussi. Il avait été dans l'armée avant de se faire virer pour une histoire de vol de pièces détachées. Tout ce beau monde se tut lorsque je rangeais la bécane. « Je vous dérange ?» lançai-je susceptible. Buffa me fait signe de ne pas rester sur le pas de la porte. « On dirait que j'interromps un conseil de famille ?»« T'es pas au courant ?» me fit Éric en se trémoussant. « Ça dépend. C'est à propos de ton ami Driss. J'ignore où il est, on n'a pas la tête dans la même casquette. Je crains qu'il ne puisse plus trouver de chapeau qui corresponde à sa entour de tête, » dit Fred, la bouche débordante de jaune d'œuf. « Ton pote, il a été identifié. Il fait la une des JT ce matin. » C'est un des kamikazes du Stade de France. Je feignis la stupéfaction. Buffa se précipita pour m'empêcher de tomber. « On est tous éberlués, » me dit-il. « Molenbeek est sous le choc. Personne n'imaginait Driss capable d'une chose pareille. »« Moi, j'arrive pas à le croire, » renchérit Jérôme, visiblement chamboulé. « Driss a toujours été un bon gars. Il ne donnait pas l'impression de ruminer des trucs de sauvage. Vraiment, je suis sûr le cul. Je l'aimais bien, moi. » Buffa poussa une chaise en ma direction. « Assieds-toi, je vais te chercher un verre d'eau. » Je fis mine de m'affaler sur le siège et me pris la tête à deux mains, car je ne parvenais pas à afficher une réelle émotion. Jérôme me tapa sur l'épaule. « Tu ne te doutais de rien ? Comment veux-tu qu'il se doute de quoi que ce soit ?» dit Fred. « Ces forcenés s'en parlent même pas à leur meuf. » Putain, se faire sauter de son propre chef, ça dépasse l'entendement. Je suis pas fichu de m'arracher une dent tout seul, moi. Comment ils font pour aller à la mort comme à la parade ? Buffa revint avec un verre d'eau. Je bus d'une traite, la colère en gestation. Les propos de Fred me lardaient. Je luttais en mon fort intérieur pour ne pas lui sauter à la gorge. « En plus, il est con !» poursuivit Fred. « Il a été sa seule victime !» On lui a peut-être tiré dessus avant qu'il active sa ceinture. Si c'est le cas, c'est bien fait pour sa gueule. Je n'en pouvais plus. Je me levai pour quitter le garage. Buffa m'accompagna dans la rue en me tenant par le bras. « Ça va aller ?»« Oui, tu peux me lâcher. »« C'est terrible, n'est-ce pas ? Driss Kamikaze ? Mais dans quel foutu monde on vit ?»« Driss est mort en martyr, Buffa. » Il fronça les sourcils en s'arrêtant net. « C'est parce que c'était ton ami que tu cautionnes son geste ? Je ne juge personne, moi. » Je traversai la chaussée et empruntai la première rue qui s'offrait à moi sans me retourner. J'avais erré durant des heures avant de me réfugier dans un jardin public. Ce n'était plus une éventuelle descente de police chez moi qui m'inquiétait. Quand on a choisi de se sacrifier pour une cause, ce qui relève de la vie n'a plus d'importance. Ce qui me préoccupait, c'était ce que j'aurais à dire à Ryan. Il devait être au courant au sujet de Driss, comme tout le monde, et était probablement en train de se poser un tas de questions, à l'heure qu'il est, à propos de ma présence à Paris lors des attentats. Il voudrait sans doute comprendre. Il me fallait garder la tête sur les épaules et réfléchir afin de trouver les bonnes réponses. Vers 16h, je pris mon courage à deux mains et me rendis rue des Bogards. La voiture de Ryan était là, ce qui n'augurait rien de bon. Ryan ne rentrait guère chez lui pendant les heures de travail. Il n'ouvrit pas lorsque je sonnais à sa porte. J'utilisais la clé qu'il m'avait laissée. Hormis l'eau qui coulait dans la salle de bain, l'appartement était plongé dans un silence de morgue. J'appelai Ryan, il ne répondit pas. En écartant la toile cirée de la douche, je le découvris assis par terre, tout habillé, tandis que l'eau cascadait sur lui. Il était pâle, exsangue, la figure complètement fondue. Il pleurait. Il leva sur moi des yeux ravagés. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Sa voix semblait émaner d'un puits. « Oui. » Il hocha la tête, renifla, passa mollement le revers de la main sur son nez. « Tu n'étais pas à Paris pour voir ta tante ?»« Non. » Il hocha de nouveau la tête, consterné. « Je m'en doutais un peu. » « Mais ce n'est pas ce que tu crois, Ryan. »« Ah bon ? J'étais à Paris pour le dissuader. » Il esquissa un sourire dépité. « Pour le dissuader ? C'est la vérité. Tu aurais fait quoi à ma place ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Il était déjà dans le bus. Je pensais qu'il allait à Paris en touriste. C'est en lui donnant l'accolade que j'ai senti la ceinture autour de sa taille. Il est devenu tout rouge quand il a constaté que j'avais compris. » J'ai été obligé de monter avec lui dans le bus pour tenter de le raisonner. Mais ce n'était plus le Driss que nous connaissions. Il ne voulait rien entendre. Je l'ai supplié et même menacé d'alerter le chauffeur et les passagers. Alors il m'a ri au nez. Ils n'auraient pas le temps de faire leur prière, qu'il m'a glissé à l'oreille. Je n'en revenais pas. Il n'aurait pas hésité à faire sauter le bus et moi avec. Il n'était pas dans son état normal, je t'assure. On aurait dit qu'il était téléguidé. Quand on est arrivé à Paris, il a profité de la foule pour me semer. Je l'ai cherché partout, mais il s'était volatilisé. Je mis une telle conviction dans mon mensonge que Ryan cessa de me dévisager. Il se remit à s'essuyer le nez sur le revers de la main. Je guettais sa réaction comme un inculpé la sentence. Ryan se recroquevilla sur lui-même et ne dit plus rien. Je fermai le robinet. Je l'avais aidé à se déshabiller et à enfiler son pyjama. Ryan s'était laissé faire comme un enfant. Il était en état de choc. Couché en chien de fusil sur son lit, il maintenait l'oreiller sur sa tête, le genou enfoncé dans le ventre. Je crois qu'il cherchait à étouffer quelque chose en lui. Je préparais à manger, mais je ne savais pas quoi faire. Je finis par m'endormir, puis me réveillai en sursaut. En ouvrant les yeux, j'aperçus une ombre assise sur le rebord de la fenêtre. Ryan ! La silhouette qui se découpait nettement contre la vitre ne réagit pas. Je repoussai la couverture, cherchai à tâtons le commutateur. N'allume pas. Je m'extirpai du canapé et m'approchai de la fenêtre. Ryan contemplait la rue qu'éclairait un lampadaire. Il bruinait dehors. « Tu es souffrant ? Ça ne me rentre pas dans le crâne. » Il n'était pas idiot, Driss. Il savait ce qui était bien et ce qui ne l'est pas. Il avait sûrement ses raisons. « Quelle raison y aurait-il dans l'insensé ? » s'écria-t-il dans une giclée de postillons. « Nous avons un cerveau pour réfléchir. Ce qui est mal, rien ne le justifie, rien ne le minimise. Une personne raisonnable n'obéit qu'à sa conscience. Qu'a-t-il fait de la sienne, Driss ?» Lui seul avait la réponse, et il n'est plus là pour te la donner. C'est pour ça qu'il ne faut pas le juger. « Je ne le juge pas, je le condamne, sans circonstances atténuantes. Je le condamne pour avoir été stupide au point de s'estimer moins important que les autres. Il s'est sacrifié pour Dieu, pas pour les autres. » Il se tourna vers moi, la bouche tordue. « Tu approuves ce qu'il a fait ? Que j'éprouve ou désapprouve, ça ne changerait rien. Ce qui est fait est fait. Est-ce que tu mesures l'étendue du désastre ? Driss voulait tuer des gens qui ne lui avaient rien fait. Où est Dieu dans tout ça ? Il s'agit de barbarie. C'est lâche, minable et triste. Chut, tu vas réveiller tout l'immeuble. Je m'en fiche. Je veux que la terre m'entende d'un bout à l'autre. Dieu n'est pas un chef de guerre, encore moins le parrain d'une organisation criminelle. Il est écrit dans le Coran que celui qui a tué un être aura tué l'humanité entière. Alors, à quoi riment ces massacres gratuits? Pourquoi faut-il faire croire que lorsque le muezzin appelle à la prière, c'est l'appel à l'agonie que l'on doit entendre? Attention, Ryan, tu es en train de blasphémer. Ah oui, tout à fait. Ta colère te fait dire n'importe quoi. Retourne te coucher. » Il se dressa d'un bond et alluma dans le salon. Il revint vers moi, les prunelles éclatées. « Je suis chez moi, pas dans le dortoir d'un internat. Je me couche quand je veux, compris? Et le juge, et je juge qui je veux. Rien ne légitime ce que Driss a fait. Ni les louanges de ses émirs, ni les oraisons funèbres de ces charlatans qui ont pris Dieu en otage avant de se substituer à lui. » Il se pencha davantage sur moi, l'haleine ardente. « Est-ce que tu es en train de le défendre, Khalil ?»« C'était mon ami. C'était le mien aussi. »« Alors ne l'accable pas. Il n'est plus là pour se défendre. Parce que tu le crois défendable ?» Il me considéra longuement, les commissures de la bouche laiteuse. Son souffle résonnait contre mes tempes comme le chuintement d'une canalisation fissurée. Nous nous regardâmes droit dans les yeux. Ryan donnait l'impression de me découvrir pour la première fois de sa vie. Moi, je le voyais brûler en enfer, pendu par la langue au-dessus d'un volcan. Plus tard, je n'arrivais pas à retrouver le sommeil. J'en voulais à Ryan. Je lui en voulais de se croire plus intelligent que les milliers de braves qui irriguaient de leur sang la voie du salut. Je lui en voulais de tourner le dos au sien, de se faire passer pour ce qu'il ne serait jamais, un bon citoyen intégré, lui, un vulgaire assimilé. Il n'avait pas à juger, encore moins à condamner Driss. Ryan n'avait même pas de camp. Il n'était rien d'autre qu'un figurant relégué au fond des coulisses, sans idéal et sans cause. Que savait-il de la religion, du devoir sacré du croyant, du véritable exercice de la foi? Il ne savait même pas pourquoi il était sur terre. Parce qu'il avait réussi à l'école, il était persuadé de triompher dans la vie. Trimer dans une entreprise ne lui suffisait pas. Il devait en plus s'imposer des heures sup pour joindre les deux bouts, pour se rendre compte qu'il n'était qu'un galérien banalisé. Son monde n'était qu'illusion, ses rêves des pièges mortels, ses ambitions des carottes en carton. Qu'est-ce que réussir une carrière lorsque la mort est au bout du parcours ? Celui qui veut s'en sortir vraiment doit s'investir dans ce qui dure et non miser sur l'éphémère. Driss avait choisi l'éternité, j'étais sûr qu'il était comblé, là-haut, ange parmi les anges, baignant dans la félicité. Thank you.
The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company.
Troisième chapitre, conversation. Perdu dans mes pensées, je ne voyais ni les rues, ni les gens. J'étais un mort-vivant errant dans le brouillard. Était-ce l'absence de Driss ou le fait d'être livré à moi-même qui effaçait le monde autour de moi? J'étais si seul et si malheureux. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler pour me prouver que les murs qui m'escortaient étaient de pierre et de briques, que le bruit alentour n'avait rien à voir avec le roulis diffus dans ma tête. Je me sentais aussi vide qu'un sachet gonflé de vent. Je ne marchais pas, je flottais. J'avais pensé appeler Zara pour qu'elle me rejoigne, mais je craignais qu'elle soit surveillée. Ma sœur jumelle était tout ce qui me restait sur la terre. Je l'adorais et elle me le rendait bien. Nous étions fusionnels au point qu'elle détectait le moindre de mes soucis. Le reste de ma famille ne comptait pas beaucoup dans ma vie. Ma mère était trop misérable pour représenter quelque chose pour moi. J'avais plus de pitié que de tendresse pour elle. Quant à mon père, il n'était plus qu'un étranger. Je n'aimais rien en lui. Il incarnait tout ce qui m'insupportait. Je me surpris devant la boulangerie d'Issa, un membre influent de l'association. Il était en train de servir une vieille dame. En m'apercevant à travers la vitrine, il me pria du menton de passer mon chemin. Quel chemin ? Tout dans cette ville où j'avais grandi sans mûrir me tournait le dos. Le soir me tomba dessus comme un oiseau de proie. Je n'avais rien mangé de la journée. Je pris place dans un kebab et commandai un sandwich et un soda. Un groupe de jeunes maghrébins parlait des attentats de Paris et de la psychose qui s'était emparée de Bruxelles, déplorant le contrôle aux faciès et l'excès de zèle des flics. Un grand gaillard en jogging monopolisait la parole. « Résultat, c'est nous qui l'avons dans l'os, » conclut-il. « Je suis bac plus, moi, et je chôme ferme parce que je n'ai pas la gueule de l'emploi. » Tout le monde se méfie de nous à cause de ces fous furieux. On est obligé d'afficher profil bas et de raser les murs. Je marche la tête haute, riposta son voisin de droite. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'écraser parce qu'une bande de dégénérés fout le bordel. Il nous porte la Kouma, lui rappela le grand gaillard. Nous n'avons pas à culpabiliser à cause de ces fêlés. Il se réclame de l'islam. C'est ce que les médias veulent nous faire croire, dit un freluqué en essuyant ses lunettes de myope dans un pan de sa chemise. L'islamisme n'est pas l'islam, c'est une idéologie, pas une religion. Farid a raison, déplora un chauve qui n'arrêtait pas de se gratter le fond de l'oreille avec une allumette. Ces cinglés mènent une guerre sainte contre les non-musulmans. C'est normal que nous nous soyons montrés du doigt. Non, ça n'est pas normal, s'insurgea le voisin de droite. Arrêtez avec vos raccourcis. Personnellement, j'en ai rien à branler de ces zombies. Si ça ne tenait qu'à moi, je crèverais les yeux au premier barbu que je croise sur mon chemin. « Hé !» lui lança un client du fond de la salle. « Je porte une barbe et je ne fais pas la prière. Dans ce cas-là, rase-la. Je peux pas, j'ai plein d'acné sur la figure. » Un petit homme efflanqué qui jusque-là n'avait rien dit réclama un peu d'attention en tapant du doigt sur sa table. « Élevez le niveau, cousin, » dit-il doctement. « Ce qui se passe est l'aboutissement logique d'un processus aussi vieux que l'instinct grégaire. L'exclusion exacerbe les susceptibilités. » les susceptibilités provoquent la frustration. La frustration engendre la haine et la haine conduit à la violence. C'est mathématique. La violence contre qui ? S'emporta le grand gaillard en jogging. Contre vous et moi ? Pourquoi ? Pour un monde meilleur ? Ces désaccès l'ont rendu pire qu'avant. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ceux qui ne se sont pas contents n'ont qu'à retourner dans leur bled. Il y a plus de mosquées là-bas que d'écoles. Ils pourront prier jusqu'à tomber raide mort. Nous y revoilà, répliqua le vieux, le plus vieux d'entre eux. Un trentenaire au teint bistre et aux doigts jaunis par la nicotine. Pourquoi veux-tu qu'ils retournent dans un pays qu'ils ne représentent pas grand-chose à leurs yeux ? Ils sont belges. Ils sont nés ici, ont été au collège ici, ont grandi ici. Leur bled, c'est ici. C'est précisément ce genre de réflexion qui leur fait détester leur pays d'adoption. Comment veut-on qu'ils s'intègrent si chaque fois qu'un bougnoul déconne, on menace de renvoyer sa communauté dans son bled d'origine ? Les Belges de souche, ils font pas de conneries, eux ? Il faut en finir une fois pour toutes avec le discours de l'extrême droite. Un pays ne se construit pas sur l'identité, mais sur la citoyenneté. Ils n'ont jamais voulu s'intégrer, persista le grand gaillard en jogging. On est fils d'émigrés, nous. Il nous arrive d'entendre des propos blessants. Il n'y a qu'à voir ces néo-nazis qui se la pètent sur les plateaux de télé, qui se permettent de parader sur la place publique en jurant de nous botter le cul. Est-ce que ça fait de nous des terroristes ? On n'est même pas de bons musulmans. On essaye de gagner notre route et on fait comme si on n'avait rien entendu. Ce n'est pas à cause d'une poignée de racistes enragés qu'on va mettre tous les Belges dans le même sac. Ça les dérange pas, eux, de mettre tous les musulmans dans le même sac, objecta le voisin de droite. Je suis d'accord avec Lounis. Les terroristes et les racistes sont des frères siamois. Si les premiers sont entrés en action, les seconds n'attendent que l'heure de passer à l'acte. Et pourtant, nous faisons la part des choses, nous. Nous ne logeons pas tous les Occidentaux à la même enseigne. Moi, reprit le grand gaillard, je suis pour que l'on entasse ces tarés dans la soute d'un cargo et qu'on les largue par-dessus leur douar. C'est la seule façon de retrouver la paix. Tout individu flanqué d'une barbe se doit d'être livré à la fourrière et expédié au chenil natal sur le champ. Je te dis que je porte une barbe à cause de mes boutons sur la figure. Rien à foutre. Ou tu la rases, ou tu dégages. Je me tournai vers le grand gaillard en me retenant de lui sauter à la gorge. « Pourquoi tu ne donnes pas l'exemple ?» lui lançai-je. « Retourne le premier dans ton bled de merde. Je suis belge, moi, et je ne fais chier personne. Tu ne seras jamais un belge à part entière, mon gars, jamais. La preuve, tu es dans une gargote communautaire à bouffer des sandwichs douteux et à déblatérer avec d'autres faux belges en cassant du sucre sur le dos des tiens. » Au lieu de jouer au capot bénévole, jette un coup d'œil autour de toi et dis-moi si tu vois une bête, une tête blonde dans ce trou à rats. Et si tu as un minimum de présence d'esprit, lève un peu plus les yeux et explique-moi à quoi riment ces pseudo-zones à risque où ta communauté est parquée comme du bétail contaminé. Lève encore la tête au-dessus de ton ghetto et regarde ce qui est en train de se passer en Irak, en Syrie, en Yémen ou en Libye. Regarde comment on traite les musulmans en Chine, en Birmanie, en Tchétchénie, jusque dans nos cimetières. C'est ce que je fais du matin au soir et je ne vois qu'atrocités, vandalisme, carnage et terreur exercés au nom de Dieu. Je vois les prophètes se griffer au visage en signe de contrition et le diable faire dans son froc chaque fois que ses coupeurs de tête dégainent leur sable. Ils ensanglantent leurs mosquées, prennent en otage leurs cités et dynamitent leur propre site archéologique, renchérit le trentenaire au teint bistre. D'après toi, qui massacre les Irakiens ? Qui dépeuple la Syrie ? Poursuivit le grand gaillard. Qui extermine la minorité en terre d'islam et livre des milliers de familles déboussolées au péril de l'exode ? Qui décapite les enfants sur la place ? Qui exécute les innocents pour assujettir les autres ? Qui pille, rackette les pauvres gougres après les avoir séduits avec des prêches mensongers ? Vas-y, réponds, éclaire ma lanterne ! Dis-moi qui viole les mères sous les yeux de leurs filles, les belles-mères en même temps que leurs brus, les veuves devant leurs orphelins au nom d'Allah, le clément et miséricordieux ? Je repoussai mon assiette en carton et me levai. Avant de quitter le kebab, je lançai au grand gaillard. Ce qui se passe dans les pays musulmans est un mal nécessaire. On ne peut pas redresser le monde sans se débarrasser de ceux qui courbent les chines. Ce ne fut qu'en regagnant la rue que je me mesurai combien j'avais été imprudent de révéler sans embâge mon opinion à des inconnus. Mais c'était plus fort que moi.
Eh bien, merci Hervé. C'était un livre fort, avec des arguments qui nous parlent aux uns aux autres.
Des conversations qu'on peut entendre partout.
Qui perturbent aussi. Hein.
Ah, ça perturbe,
oui. Oui. Ça peut même, prêter à ambiguïté.
Oh non, parce qu'on sait très bien que Yasmina Khadra est un humaniste. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un humaniste.
Oui. Alors, en t'écoutant, moi, j'ai repensé au livre dont je vous parlais avant l'émission, qui s'appelle « Les anneaux du Seigneur ». Et j'invite les gens qui liront ce livre à lire aussi « Les anneaux du Seigneur ». Ça se passe dans les années 90 en Algérie, et c'est la montée du Front islamiste, c'était le fils, hein, Front islamique du Salut, voilà. Avec des villages qui se déchirent entre eux,
tous les attentats,
entre les gens qui basculent dans le terrorisme et les autres.
Et Yasmina Khadra, en témoignant de tout ça, montre bien que ça n'est pas simple, ça ne se passe pas comme dans un roman. La vérité, la réalité est très compliquée des fois à saisir.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Hervé, Catherine, le titre est-il déjà choisi ?
Ah ben, pour ma part, non, d'autant que je crois que c'est Catherine qui lit le mois prochain.
Désolé, moi je suis encore dans le cadrage, je ne vous parlerai de rien d'autre.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Au revoir Catherine, au revoir Hervé.
Au revoir.
Et au mois prochain.